Pourquoi pourrait-on, n'est-ce pas, vouloir que les aborigènes aient une conscience indienne, hindoue? Eh bien, ce n'est pas la faute de la Hindu Mission. La Hindu Mission n'aurait jamais pensé à ça sans les Anglais. C'est que ces aborigènes votent. Les Anglais ont introduit dans l'Inde ce qui est absolument anti-hindou, la démocratie, la loi de la majorité. Et ils avaient aussi fait une loi, le Communal Award, selon laquelle, dans les assemblées provinciales, eh bien, on votait par communauté religieuse. Et la communauté religieuse devait donner la proportion des représentants. Par exemple, au Bengale, qui avait 55% de musulmans, c'est les habitants du Pakistan oriental maintenant, et 45% d'hindous. Il devait y avoir 45% d'hindous et 55% de musulmans dans l'assemblée. En Assam, où la plupart des aborigènes ont été christianisés par les missionnaires, il y avait naturellement une majorité chrétienne. Et c'est pour combattre ça, c'est-à-dire c'est pour une raison purement politique qui n'a absolument rien à faire avec la religion, que Satyananda Swami a essayé de donner une conscience hindoue, de faire croire à ces aborigènes qu'ils étaient hindous quand ils ne le sont pas, pour qu'ils votent hindous au lieu de voter chrétien ou musulman. En somme, je suis allée le trouver. Et je lui ai dit que j'étais toute prête à se joindre à lui pour combattre les religions que d'égalité, le christianisme, l'islam et le communisme. Le communisme est, pour ainsi dire, une commune religion pour ceux qui le pratiquent. C'est quelque chose pour lesquels, n'est-ce pas, pour lequel des gens sont prêts à tout. Alors il m'a dit, oui, très bien. Je serais très content d'avoir votre collaboration. Est-ce que vous avez un maître à penser indien? Je dis non, je n'ai pas de maître à penser indien. J'ai un seul maître à penser européen, et ça c'est Adolf Hitler. Il m'a dit, Adolf Hitler, mais c'est très bien ça. C'est très bien. Nous le considérons comme une incarnation divine. Nous ici, moi je le considère comme une incarnation divine. L'incarnation du dieu Vishnu, qui est le dieu de la conservation de l'ordre divin, qui est dérangé par ceux qui le dérangent naturellement, mais qui a une force de conservation. Je dis très bien dans ce cas-là, est-ce que je peux faire des citations de lui dans mes conférences, mes causeries, etc. Il me dit tant que vous voulez. Seulement, présentez-le. Et présenter les choses du point de vue hindou. Juste ça, c'est plus facile. Et il m'a employé tout de suite. J'avais une place en vue dans un collège à 150 roupies par mois. Satyananda Swami ne pouvait m'offrir que 32 roupies avec une chambre payée par la mission. J'ai accepté. J'ai accepté tout de suite. Et j'ai pendant des années, j'ai fait ce travail-là. J'étais conférencière pour la Hindu Mission, en bengali, en hindi et en anglais. Dans le Bihar, en hindi, en bengale et en assam, en bengali et en anglais, partout. Et j'ai des souvenirs très, très intenses, des beaux souvenirs de cette époque. Par exemple, je me souviens. J'avais une fois traduit en bengali oriental, ça devait être en 37 à peu près. J'avais traduit en bengali au cours d'une causerie, sans dire, je voulais voir l'effet que ça ferait, sans dire l'auteur de cette citation. Une citation de la page 324 de l'édition allemande de 1935 de Mein Kampf. Toutes les grandes cultures du passé se sont écroulées. Parce que la race originellement créatrice qu'elle contenait est morte de la mixture des sangs. du métissage. Je citais ça. Et puis j'ai attendu à la fin de la causerie. C'était dans un paysage, comme d'habitude, un paysage tropical, devant des sous les cocotiers, devant d'immenses rizières. Il faisait très chaud. Il y avait des gens qui venaient des villages. Ils venaient par curiosité voir l'Européenne qui défend l'hindouisme. Il y en a un vieux brahman à peau claire, aux yeux gris, qui m'a dit, il est venu me trouver à la fin, il m'a dit, dites-moi, pouvez-vous me dire, j'ai trouvé cette citation que vous avez faite très belle, pouvez-vous me dire de quel livre sacré, de quel shastra, les shastras sont les livres sacrés de l'Inde, de quel shastra vous l'avez tiré? Je lui ai dit oui. Je l'ai tiré d'un shastra. Mais c'est un shastra moderne, écrit en allemand, écrit en 1924. Je l'ai tiré du livre d'Adolf Hitler. Il me dit, c'est pas possible. Mais alors, mais je comprends maintenant pourquoi les missionnaires sont contre lui. C'est qu'il est hindou, il n'est pas chrétien, votre Adolf Hitler. Je dis, il n'est pas hindou, ni hindou ni chrétien, il est lui-même. Mais, évidemment, ces principes se rapprochent des principes de l'hindouisme parce que ce sont des principes ariens. Il est pour la hiérarchie. Il est pour la ségrégation des races, exactement comme vous et comme tous ceux qui sont des hindous traditionnels. Il me dit, dans ce cas-là, je ne peux que lui souhaiter la réussite, que tous les dieux le protègent, qu'il arrive à, n'est-ce pas, à conserver le pouvoir, et si jamais il est en difficulté, bien qu'il puisse surmonter les difficultés. D'autres qui étaient là, qui sont venus en écouter, ont été aussi également étonnés de ce que je disais, et j'ai continué comme ça. J'ai continué ailleurs. Il y avait un endroit qui s'appelait Dolipar, également au Bengale oriental, un endroit où les Seventh-day Adventists, des Adventistes du septième jour, avaient fondé un dispensaire, un hôpital, une école. Ils étaient très prospères, là. Et ils avaient converti une veuve avec deux enfants. Et elle s'était repentie, et elle est venue à Calcutta, rentrer dans l'hindouisme, la Hindu Mission l'a reprise, avec ses deux enfants. Quand elle est rentrée dans son village, elle a trouvé que les chrétiens du village avaient mis le feu à sa hutte, sa petite maison. Ça a fait une histoire. Ensuite, la Hindu Mission m'a envoyé dans ce village faire ce que je pouvais. Et j'ai donné une conférence sur justement la Bible et sur la raison pour laquelle je ne pouvais pas accepter tout ce que la Bible disait. Et j'ai invité naturellement le missionnaire à ma conférence. Le missionnaire était assez mal, comment dirais-je, m'a pris au dépourvu. Non seulement je connaissais la Bible mieux que lui, mais surtout je connaissais le Bengali mieux que lui. Et tout petit à petit, le village a été gagné. Et peu de temps après que je suis parti, j'ai entendu dire que les Seventh-day Adventists, les Adventistes du septième jour, ont été forcés de quitter. Le gouvernement a repris leur hôpital, leur dispensaire, enfin tout ce qu'ils avaient fondé, a été repris par le gouvernement. Mais ça n'est pas le plus beau. Mes meilleurs souvenirs, ce sont ceux dans lesquels j'ai dit aux hindous de ne jamais changer de religion. Je leur ai dit, ne faites pas ce que nous, en Europe, nous avons fait. En Europe, nous avions tous des religions nationales, des religions naturelles, fondées sur les forces de la nature et sur une moralité convenant à chaque nation, à chaque peuple. Et ces religions ont été interdites peu à peu, soit par l'empereur Constantin en 1313, soit par Clovis quand il a été chrétien, il s'est fait chrétien en 496, soit naturellement par Charlemagne et ses successeurs, et déjà ses prédécesseurs, déjà Pépin le Bref. Et je leur ai parlé de cette histoire européenne. Je leur ai parlé du chêne qui avait été abattu, le chêne sacré, sous lequel les hommes libres tenaient leurs assemblées, quelque part en Allemagne, qui avait été abattu par Boniface, Saint Boniface. Malgré les protestations des gens, les gens étant impuissants parce que Boniface avait auprès de lui un papier, un brief de Pépin le Bref, et les gens savaient qu'ils auraient l'armée franque à leurs trousses, enfin les francs viendraient et dévasteraient leur pays s'ils faisaient du mal à Boniface. Boniface a fini par être tué en Frise, c'est-à-dire en Hollande, les Hollandais n'étant pas à la portée de Pépin le Bref ou de quiconque parmi les francs à ce temps-là. Je leur ai parlé de l'empereur Julien. J'ai dédié le premier de mes livres en anglais qui s'appelle Avertissement aux hindous, Warning to the Hindus, à la mémoire de l'empereur Julien. 360-363. J'en ai parlé beaucoup dans ces conférences. Je leur ai parlé d'Hypatie, fille de Théon, la philosophe néo-pythagoricienne d'Alexandrie, qui a été lynchée en 415 par des foules chrétiennes déchaînées sous la direction des moines du désert, des moines de la Thébaïde, parce qu'elle ne voulait pas accepter la nouvelle religion. Au contraire, elle prêchait l'ancienne. Et je leur ai parlé de Witukind, le Saxon qui a résisté la christianisation de l'Allemagne pendant 30 ans. Je leur ai parlé des capitulaires de Paderborn, des lois de Charlemagne, 785, qui interdisaient non seulement le culte des anciens dieux, mais interdisaient aussi le fait de brûler les morts, le fait de lire des textes runiques, le fait de s'en aller dans la forêt pour éviter le baptême, etc., etc. Tous ces délits sont dits, si quelqu'un les commet, il sera puni de mort. C'était la terreur. Et en Scandinavie, pareil, et partout, pareil. Le christianisme ne s'est pas imposé à l'Europe rapidement. Au contraire, au XVe siècle, la Prusse avait encore ses propres dieux. La Lituanie, les États baltes également. Et je me souviens un jour, c'était à Sadia, dans le nord de l'Assam, à 25 km de la frontière chinoise. On voyait la Chine d'une élévation d'où je parlais. On la voyait pas tellement bien, mais enfin, on la voyait. On savait que c'était là-bas la Chine. Je ne suis pas allé, mais je l'ai vu de loin. Je me sentais sur le bord, entre le monde aryen et le monde jaune. Et là, j'ai parlé justement de l'activité de la mort d'Hypatie, fille de Théon, et de tous les autres qui avaient combattu la religion internationale et d'origine juive au nom des religions nationales, qu'elles soient grecques ou romaines ou germaines ou gauloises ou n'importe lesquelles. Et j'étais très heureuse. Il me semblait que je vengeais ces combattants vaincus du haut Moyen-Âge, du début du Moyen-Âge. Et
Je viens de lire, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement, un texte qui m'a emballé parce qu'il confirmait justement mes activités passées. C'est un texte d'Amérique qui se trouve publié dans le périodique qui paraît 4 fois par an, là-bas, en Virginie, qui s'appelle le National Socialist et qui est l'organe de l'Union hitlérienne mondiale, de VUNS, World Union of National Socialists. L'article est de Bad Köln, le président de la NSWPP, c'est-à-dire Parti National Socialiste des Hommes Blancs, de la race blanche, en Amérique. Et le titre de l'article est « L'hitlérisme, foi de l'avenir ». L'article est très beau. Il commence par montrer que toute grande civilisation a à son centre un mythe, quelque chose, une foi qu'il soutient. Et que la civilisation occidentale a eu, depuis plus de 1000 ans, comme soutien, le christianisme, ou plutôt une édition spéciale du christianisme. Le christianisme hellénisé et latinisé, pas le christianisme judaïque primitif. Et il montre très bien l'opposition graduelle qui s'est faite contre ça et la dualité de conscience que les Européens ont ressentie dès le début, dès l'introduction de ces valeurs et de ces idées étrangères parmi eux. Il y a des choses qui les ont choquées. Peu à peu, ces choses ont disparu de plus en plus, mais elles ont disparu au prix de combats. Et il cite des quantités de gens qui les ont combattus. Du temps de la Renaissance, naturellement, et avant et après. Puis, il montre la décadence de ce mythe. Ce mythe n'est plus valable. Il devient de moins en moins valable. Il est devenu de moins en moins valable depuis que la science cosmique, la physique, avec Copernic, avec Kepler, avec tous ces grands astronomes, a contredit les données de la Bible. La science biologique, qui est allée beaucoup plus loin dans l'histoire de l'homme et dans l'histoire du monde que la Bible. Et on ne peut plus croire, comme on y avait encore des livres qui le disaient, au 19e siècle, 4 octobre 4004, je crois, avant Jésus-Christ, fondation du monde, création du monde. Une date à la création du monde. Imaginez ça. Bon, nous trouvons ça bête aujourd'hui. Mais il y a des gens qui acceptaient ça il y a seulement 100 ans ou 150 ans. Aujourd'hui, c'est inacceptable. Et puis les valeurs chrétiennes. Les valeurs chrétiennes, bien, de moins en moins de gens y croient. La preuve, c'est l'absence des vocations religieuses, l'absence des manifestations religieuses. Je me rappelle l'atmosphère qu'il y avait à la faculté de Lyon, du temps où j'étais étudiante. Ça veut dire, il y a quoi? Il y a 70 ans? Même pas 60, un petit peu moins de 70 ans. Eh bien, aujourd'hui, il paraît que cette atmosphère est impensable. Et il dit, cet article, qu'est-ce qui va remplacer ça? Ça sera très graduel, évidemment. Mais il ne voit que la seule idéologie hitlérienne qui soit capable de satisfaire l'âme occidentale, l'âme arienne d'Occident. Et c'est une chose étonnante que, en dehors de l'Occident proprement dit, la seule communauté qui se plierait très facilement également aux valeurs et à l'idéologie hitlérienne, c'est encore la communauté indienne, hindoue traditionnelle, avec son système des castes. Si vous lisez ce livre, étonnant parce que ironique, son auteur, Hermann Reuschnig, qui était un membre du parti, qui était un hitlérien convaincu ou qui croyait l'être, a écrit un livre quand il s'est aperçu qu'il s'était trompé. Ce livre s'appelle Hitler m'a parlé, ou Hitler m'a dit. Il en était à sa 13e édition française en 1935. Je ne sais pas combien il a d'éditions maintenant. C'est une attaque virulente contre l'hitlérisme par un ancien hitlérien. Un homme qui était dans le cercle fermé, dans le petit cercle. Et c'est justement parce qu'il a été accepté, malheureusement, dans le petit cercle, et qu'il a vu ce qu'il en était, qu'il a écrit ce livre. Et dans ce livre, justement, il parle d'une organisation sociale qui ressemblerait plus ou moins à une sorte de système de castes. Il dit ce que le Führer voudrait, eh bien, c'est tout simplement une élite de sang et de caractère, la crème de l'arme des Aryens, qui serait non pas choisie, mais qui s'imposerait elle-même dans le combat. C'est la SS. Et puis ensuite, il y aurait la seconde élite, si on veut, la partie la plus idéaliste du parti. Et puis ensuite, le parti, les membres qui ne sont pas particulièrement importants du parti, enfin qui sont tout de même, par contre, qui sont pour. Et puis les masses, qui sont pour, mais qui sont pour d'une manière que ne peuvent l'être que des masses. Et qui n'ont pour but que de garder leur sang pur et de continuer à procréer de manière à ce que, parmi leurs enfants, ils aient s'élèvent des personnalités dignes de continuer l'œuvre. Ça, c'est de l'hindouisme. C'est le même esprit. Ça ne s'appelle pas de l'hindouisme, mais c'est le même esprit. Ce que ce vieux brahman m'a dit dans cette conférence dont je vous ai parlé, votre maître européen, Hitler, c'est pas étonnant si les missionnaires ne l'aiment pas, s'ils en parlent mal ici, parce que les missionnaires ne se gênaient pas pour parler mal de lui. Eh bien, c'est parce qu'il est, en réalité, il est hindou, il n'est pas chrétien, évidemment. Il n'a jamais dit qu'il renonçait à l'Église. Moi non plus, d'ailleurs. Je ne suis jamais détaché de l'Église officiellement. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Idéologiquement, c'était impossible. Et il savait qu'il était impossible d'avoir à la fois les valeurs chrétiennes et les valeurs hindoues, les valeurs aryennes. Pour ce mot.